La forêt. Moi, je sais pas si, comme moi, vous avez été interpellé par ce surnom donné à la charpente de Notre-Dame de Paris. La forêt. La forêt parce qu'elle était tout en bois et parce que des poutres de chêne y étaient enchevêtrées, croisées, sans interrompre la continuité des fibres et les structures, ce qui ajoutait à leur solidité. Les charpentiers d'aujourd'hui saluent volontiers l'ingéniosité de cet assemblage qui lui a permis de résister si longtemps aux guerres, aux incendies, aux dégradations mises en place au XIIIe siècle, avec des arbres abattus un siècle plus tôt et du bois qui datait pour certains endroits de cette forêt du IXe siècle, il paraît. Mais c'est quelque chose quand même que cette structure qui s'étendait sur 100 mètres de longueur et 13 mètres de largeur dans la nef, dans le transept, elle atteignait même 40 mètres de largeur et 10 mètres de hauteur, au-dessus un toit de plomb de 210 tonnes. Vous imaginez la force? Quand elle est partie en fumée, cette forêt, en quelques heures, lundi dernier, ce qu'on a vu, c'est pas sa force, c'est cet étrange sentiment que vous avez peut-être, comme moi, éprouvé l'été, devant la télé, devant un incendie de forêt, justement, la fragilité de ces arbres si forts.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quel bois est faite mon invitée d'aujourd'hui? Elle est comédienne, vous la connaissez pour ses rôles dans La Polonide de Bertrand Bonello, Géronimo de Tony Gatliff, Nos années folles d'André Téchiné ou encore dans les séries Les Revenants ou Vernon Subutex. Elle sera à l'affiche mercredi du premier long métrage d'Audrey Diwan, Mais vous êtes fou. L'histoire d'une famille et d'un couple qui essaie de survivre au pire, c'est très réussi. Bonjour Céline Salette.
Bonjour, merci beaucoup.
Merci d'être là. Tout d'abord, parce que c'est vous qui me l'avez soufflé ce matin, votre envie de parler de cette forme. Qu'est-ce qu'il vous évoque ce mot?
C'est étonnant, parce que c'est très beau le texte que vous avez écrit et comment vous lisez d'ailleurs. Je me disais, tiens, c'est drôle, Augustin devrait être comédien.
Ouais. c'est un métier quand même, hein, que je respecte.
Oui, mais on peut s'y entraîner, on peut s'en approcher. Et alors, c'est drôle, en vous écoutant, je mesurais, oui, la fragilité du bois, de ce que c'est que la vie, c'est-à-dire du temps qu'elle met à croître et à faire de la beauté pure, de la beauté inimitable. C'est-à-dire, nous, êtres humains, je veux dire, on peut tenter de réaliser des choses. On ne sera jamais à la hauteur de ce que fait la vie, naturellement. Mmh. Et ça, c'est d'une extrême fragilité. Ça part en fumée tellement vite. Et j'avais des frissons en vous écoutant parce que, oui, évidemment, il y a l'enchevêtrement, il y a la construction de ce qui devient une force, et puis la destruction va très très vite. Et c'est la destruction dans laquelle on est en ce moment. Moi, je ne suis pas tellement catastrophiste, mais en vrai, j'ai une préoccupation écologique immense. Et je sais pas, je trouve que c'est important de soulever des questions, des interrogations.
Quand est-ce que c'est devenu une source de préoccupation chez vous?
Je ne peux pas dire, ça a augmenté. C'est une chose qui a augmenté. Je pense comme toutes les bonnes choses dans la vie.
Mais surtout, à quel moment est-ce que vous avez compris que vous, en tant que comédienne, peut-être à votre échelle, vous pouviez faire quelque chose?
Alors ça, c'est un truc que j'ai compris parce que je l'ai compris dans mon écologie interne. Hmm. C'est-à-dire qu'à des moments, je me suis mis en difficulté dans ma vie. Et quand j'ai réalisé que j'étais la source de mes problèmes et aussi la source de mes solutions, j'ai compris une chose très importante pour moi. Et du coup, j'ai commencé à l'appliquer à tous les domaines de ma vie parce que j'ai accompli une espèce de ce que j'appelais une révolution, c'est-à-dire un tour sur moi-même. Parce que c'est ça que fait le soleil autour de la Terre. Non, mais c'est vrai. Il faut se révolutionner. Moi, je pense qu'il faut d'abord se révolutionner.
Il faut nous parler de ce projet que vous avez d'association qui s'appellera ouais. ACT, qui veut dire jouer et agir en anglais. Quel en sera le principe, l'objectif? Qu'est-ce que c'est?
Oui, ça c'est pareil, c'est une chose qui est née dans toute cette période de ma vie qui était hyper exaltante et qui l'est encore aujourd'hui et dans laquelle ont grandi en moi des préoccupations de ce genre. Donc on s'est réunis à plusieurs et on essaye de mettre en place avec d'autres camarades acteurs cette chose qui s'appellerait ACT. L'idée ce serait de diffuser sur les réseaux sociaux des inédits d'acteurs, donc des choses qui n'ont jamais été vues, qui sont hors production, qui existent déjà, comme des making-of qu'on connaît pas, des scènes bêtisiers, ou bien des inventions sur les trottoirs ou sur les plateaux de cinéma. Il y en a beaucoup. Moi j'ai la chance de côtoyer ces étoiles que sont les acteurs. Je suis tout à fait fascinée, émerveillée, amoureuse de mes camarades acteurs. Et j'ai la chance d'être une spectatrice privilégiée de beaucoup de leurs conneries.
Et vous vous dites qu'il faut faire quelque chose de ces conneries.
Ben évidemment, c'est du recyclage qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, c'est de l'optimisation.
Et parce alors, pourquoi que... agir? Qu'est-ce que vous allez en faire, justement?
Oui, ce que j'ai pas expliqué, donc, c'est que les gens vont regarder, on espère, hein, ces conneries. Et puis, là, on va mettre en place une régie publicitaire qu'on va reverser à des associations.
D'accord.
Et pourquoi? Bah parce que faut bien faire quelque chose quand même, faut bien essayer de faire quelque chose. Chacun à son échelle, quoi, après.
Mais est-ce que le comédien, mais aussi le cinéma, hein, les films peuvent être envisagés comme des acteurs du changement, pour vous, Céline Salet, de l'ouverture, de l'émancipation aussi, peut-être?
Ouais, pour moi, l'art, c'est toujours un vecteur de mouvement et de changement.
Par exemple, vous, en tant que spectatrice, quels sont les films, peut-être même le film, dès votre prime enfance, qui vous a ouvert les yeux?
Ouais, bien sûr, bah, moi, par exemple, j'ai vu Braveheart, je sais que c'est pas...
Ah bah, Mel Gibson,
pas,
moi aussi, je peux
vous
le dire.
C'est pas une référence, c'est pas une référence de culture intellectuelle, mais peu importe, moi, c'est un film qui m'a... Oui, par exemple, La couleur pourpre aussi, c'est un film extraordinaire.
Adapté de ce si beau roman d'Alice Walker.
De Spielberg, ouais, je connais pas le roman, mais en tout cas, c'est vrai que le film de Spielberg, les films ouvrent le cœur.
Et il en reste quoi de ce choc, aujourd'hui?
Ben, des ouvertures, je dirais. Après, il y a des pans entiers de cœur qui sont ouverts, et après, on peut plus revenir en arrière.
Et ça oriente vos choix de rôle?
Non, mes choix de rôle, c'est un peu différent, parce que, d'abord, tout ne vient pas à moi, et puis... Du coup, c'est un peu comme ça que ça se fait. C'est un peu par familiarité, capillarité. C'est comme ça. C'est plus mystérieux que ça.
Mais celle qu'on entend, en tout cas ce matin, c'est pas tant la comédienne Salet que la citoyenne Salet.
Ouais.
Vous étiez il y a quelques mois à l'affiche d'un film de Pierre Scholler sur la Révolution française. Mmh. Qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui pour vous cet esprit révolutionnaire? Il est toujours présent?
Bah oui, bien sûr. Et je crois beaucoup à la révolution d'une certaine façon. Je pense en revanche que aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire la guerre. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de se battre contre, il faut se battre pour. Donc, il faut s'orienter vers la création et pas vers la destruction. Et je pense qu'il faut arrêter de perdre du temps avec ça. Parce que je veux dire, plus on détruit, plus on doit s'occuper de reconstruire. Donc c'est pénible. Enfin, c'est pas pénible. Mais ça n'a pas de sens. Et par ailleurs, je comprends. C'est-à-dire que quand on... Ça part même de la structure de ce qui est proposé. Moi, par exemple, j'essaye de réduire les déchets. C'est hyper difficile. Mais par exemple, quand je dis à ma fille, bon, bah, on va arrêter d'acheter des paquets de gâteaux, elle gueule. Elle est pas contente. Oui. Ouais. Et à la place, il faut proposer des gâteaux. Donc moi, j'en ai fait beaucoup. Mais comme au début, j'essayais de mettre pas de gluten et moins de sucre, c'était vraiment... vous voyez ce que je veux dire? La proposition, c'était vraiment pas sympa.
C'était très mauvais. Ouais,
voilà.
Bien sûr, faut le dire.
Voilà. Et donc du coup, je veux dire, j'ai mis du temps à dire, ok, c'est bon, j'arrête de faire tout radicalement et bêtement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas augmenter l'essence et pas proposer des voitures électriques vraiment pas chères, quoi. Vraiment abordables. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, si t'enlèves le goûter, faut proposer autre chose, et autre chose de très très bien, de mieux en fait, parce que la vie marche avec le désir. On doit désirer le changement vertueux. Donc, ça veut dire que ce qu'on propose aux gens, c'est de la merde, vraiment. Et c'est ça qui est honteux. Et c'est ça qui politiquement doit changer. Parce que ça n'est pas possible de rentrer dans un magasin et d'avoir que du poison à consommer. Ça n'est pas possible d'avoir que des options de merde. Et en fait, ça, c'est des volontés politiques, c'est les pouvoirs commerciaux, je veux dire, de l'industrie, qui sont immenses. Je trouve que l'industrie doit faire autre chose, vite.
Merci pour ce bon sens. Celle qui n'en a aucun de bon sens dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, elle n'est pas du tout constructive non plus. C'est la culture, c'est une actualité gratuite.
Ouais.
Tati Daniel est sacrément rabat-joie. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 19 avril?
Romantique et politique sera cette sélection.
Romantique et politique.
Cannes, demandez le programme. Hier, Thierry Frémaux et Pierre Lescure ont levé le voile sur la sélection officielle du 72e Festival de Cannes. Résultat, 19 longs métrages se disputeront la Palme d'Or. Une compétition qui opte pour un réjouissant mélange de poids lourds et de jeunes premiers, en réunissant notamment Almodovar, Dolan, Jarmusch, Ken Loach, Desplechin, les Frères Dardenne ou Terrence Malick d'un côté, et en offrant de l'autre d'excitantes premières fois à Justine Triet, Mati Diop, Aira Sachs, Diao Yinan, Jessica Hausner, Lajli, Corneliu Porumboyu ou Céline Sciamma. Trois grands absents des annonces font durer le suspense, Kore-eda, Tarantino et Kechiche. Mais qu'on se rassure, il reste des places.
On a fait un constat, ouais. À l'amiable. Voilà.
Circuler, il y a tout à voir dès aujourd'hui. Le 104 à Paris met l'honneur à la jeune photographie européenne avec une nouvelle édition de Circulation. Joli festival aussi prestigieux que prescripteur. Jusqu'à fin juin, 37 jeunes talents de la photo nous invitent à jeter un œil sur des ailleurs sublimés. Cette année, le rendez-vous propose ainsi un focus sur les artistes des pays de l'Est, en particulier ceux de la Roumanie. On pourra notamment y voir Post-Industrial, série glacée et hypnotique de Johanna Sirlig. Chic.
My first novel came out in 1931. A famous Cornish author warned me, the critics will never forgive you for writing Rebecca.
Daphné hors cadre, deux poèmes inédits de Daphné du Maurier ont été découverts derrière le cadre d'une photo représentant l'autrice de Rebecca, debout en maillot de bain sur des rochers. Les deux œuvres remontraient aux années 1920. La première, titrée Song of the Happy Prostitute, aborde les regrets et la mauvaise réputation d'une prostituée. La seconde, plus sombre, évoque la solitude et l'enfance. Daphné du Maurier a écrit de nombreux poèmes dans sa carrière, mais très peu ont été publiés. Et ouf, c'est vendredi, alors on monte le son et on sourit, et surtout on branche Adieu, au revoir de Columbine, phénomène rap rennais qui livre une réédition de leur précédent opus, augmenté de 10 inédits. On se laisse porter par High Highs to Low Lows, la première livraison de la révélation R&B franco-américaine Lolo's Why. Et sinon, on tombe sous le charme de Celia, nouvel album de la diva béninoise Angélique Kidjo, consacré à la chanteuse cubaine Celia Cruz. Elle sera bientôt chez nous, triple pouce. Et la comédienne Céline Salette, invitée de Boomerang ce matin, pour Mais vous êtes fou, un film dans lequel Pio Marmaille joue votre compagnon, dont la toxicomanie va bouleverser l'équilibre familial. C'est un film sur la dépendance, toutes les dépendances, en fait, y compris affectives. Qu'est-ce qui vous rend dépendante, vous, tiens?
Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le contraire de la dépendance, du coup, me rendait dépendante beaucoup, beaucoup de choses. Mais par exemple, j'ai arrêté de fumer, parce qu'en fait, le contraire de la dépendance, c'est de l'autonomie, donc. Et en gagnant en autonomie, à tous les deux niveaux de sa vie, bah on grandit.
Mais de quoi vous pouvez pas vous passer quand même dans la vie?
J'aurais beaucoup de mal à passer de ma fille. J'aurais beaucoup de mal à passer de mon amoureux aujourd'hui. Après, il faut recréer des dépendances, évidemment.
Et jouer, justement, la comédie, quel genre d'addiction est-ce que c'est pour vous?
C'est une drogue très puissante et c'est une drogue naturelle géniale.
Une drogue saine?
Je sais pas si elle est saine, franchement.
Arrêtons l'omerta, ça existe, les drogues saines, Céline.
Oui,
il y en a
bien
peu,
sûr.
Mais ça existe.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, acteur, ça part d'une pathologie. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment sain, c'est pas sûr. Hein.
J'espère que vous le disiez aussi calmement.
Oui,
c'est l'expérience que vous dites ça en...
Oui, bien sûr, c'est des constats. Mais des constats intérieurs, hein, d'abord. Hein, c'est pas pour incriminer mes camarades.
Alors précisément, qu'est-ce qui se passe en vous, dans votre corps, lorsque vous êtes en état de manque? Parce que c'est là, à mon avis, où vous devez voir.
Ouais, c'est pas sympa. Non, mais en vrai, on travaille pas pendant de longues périodes, ça nous arrive. Et cette adrénaline qui manque, c'est beaucoup de l'adrénaline. Elle se transpose ailleurs, en général.
Qu'est-ce que c'est un corps pour vous, Céline Salette?
C'est un super moyen de transport. Mais c'est un temple aussi.
Un temple?
Ouais. Ah oui.
Sacré?
Ouais, c'est une maison.
Est-ce que vous diriez que vous êtes quelqu'un de physique, de connecté à son corps, à ses émotions?
Ouais, pas assez. Je trouve qu'on l'est jamais assez. Oui, bien sûr, parce que moi c'est mon outil, mais j'ai beaucoup de progrès à faire par ailleurs.
Par exemple, lorsque vous êtes assise dans une salle de cinéma, vous êtes spectatrice, comment réagit votre corps? Qu'est-ce qui se passe?
Et par exemple, quand on y pense deux secondes, excusez-moi, mais toutes ces cellules à l'intérieur de nous qui ont leur propre intelligence et qui font fonctionner le bordel sans qu'on leur demande, c'est quand même extraordinaire quand on y pense.
Ouais, c'est vrai.
Je veux dire, c'est quand même de la magie pure. Quand même, les types font un travail de dingue pour que dalle. Ils ne sont jamais remerciés. On est là, on est jamais content de notre corps.
On leur fait mal parfois même.
Ouais, on est jamais content, on fait jamais attention. C'est vraiment dégueulasse. Reprenons conscience de notre corps. Qu'est-ce que vous disiez?
Au cinéma. Quand ouais. Vous êtes au cinéma, qu'est-ce qui se passe dans votre corps?
C'est magique. Au cinéma, on peut avoir des frissons, on peut avoir des vertiges intérieurs.
C'est une expérience physique.
Ouais.
Pour vous.
Ouais, mais pour tout le monde, c'est ça qui est génial. Et beaucoup de gens quand ils me demandent par exemple qu'est-ce que c'est jouer tout ça, qu'est-ce que c'est que cette espèce de transe qu'on fait quand on joue tout ça, je dis c'est pareil que quand on regarde un film et qu'on pleure, on est quand même sur son canapé, souvent en train de bouffer des pop-corn ou des trucs. C'est, même si c'est vraiment pas bon, on arrête de manger quand on regarde un truc. Mais quand même, on voyage.
voyage.
Comme spectateur, même comme spectateur. Je veux dire, quand vous pleurez, vous ne faites pas d'autre chose qu'un acteur qui
j'ai
pleure.
J'ai une tête à pleurer devant un film, moi.
Bah, ouais. C'est pas honteux, quand même.
Bah non, pas du tout. Et puis vous avez raison, en l'occurrence.
Qu'est-ce qui se passe?
Je travaille pour la Brigade des mineurs. Vous savez pourquoi vous êtes là?
Bah, on est venu faire des analyses comme on nous l'a demandé.
Vous êtes positive à la cocaïne. Votre fille aussi.
Quoi? Je comprends pas. Comment c'est possible?
Ah, moi, je sais pas. C'est vous qui allez nous le dire. Vos enfants vont être placés, madame.
Quoi?
C'est l'aide sociale à l'enfance qui va s'occuper d'eux.
Vous pouvez pas prendre mes enfants.
C'est une décision du procureur pour leur sécurité.
Mais j'ai rien fait, moi. Vous pouvez pas prendre mes enfants.
C'est pas moi qui décide.
Faites pas ça. S'il vous plaît. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je veux les voir. Faut que je leur parle. Faut que je les voie.
Non, madame. Elles sont prises en charge.
Pardon? Je peux pas voir mes enfants?
Je suis désolée, madame.
Je peux pas voir mes enfants, là, maintenant?
Pas maintenant.
Non, je veux les voir. Faut que je les voie.
C'est plus possible.
Faut que je leur explique. Je veux les voir, s'il vous plaît. Laissez-moi les voir. Je veux voir mes enfants!
Céline Salette dans Mais vous êtes fou d'Audrey Diwan en salle mercredi. J'ai le poil qui se dresse là, rien qu'à vous entendre. Dans quel état est-ce que vous êtes quand vous jouez une scène comme ça, Céline? Une scène d'intense détresse en fait.
Je suis incapable de vous dire. En fait, c'est un débranchement. On débranche quelque chose pour partir, on part. Donc, en général, quand ça part, je suis pas en train de me dire tiens, ça, je suis là ou là. Non, je fais un voyage, après je reviens, après je fais alors, c'était comment, ça va?
C'est intéressant ce vocabulaire voyage, vous disiez trans, juste avant qu'on passe cet extrait. Il paraît que dès le début, jouer la comédie, vous plongez dans un état de trans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mais tout le monde, en fait, c'est pas que moi. C'est comme des états de conscience modifiés, en fait, quand on l'étudie, c'est comme des états d'hypnose. C'est pas très compliqué, en vrai. C'est comme quand vous conduisez, vous faites première, deuxième, troisième, quatrième, sans y penser.
Alors comment on passe la seconde?
Après, pour être acteur, il faut quand même beaucoup s'entraîner, le plus possible. Et puis, il faut arriver à pas se saboter. C'est ça le plus dur.
Vous vous souvenez quand c'est venu la première fois?
Je me souviens de la première fois où j'ai joué sur scène devant des gens, et c'est vrai que les premières fois où tu fais rire, d'un coup, c'est des vagues, c'est monstrueux.
Monstrueux.
Ah ouais, c'est génial, c'est dément.
Ça vous arrive souvent, tout le temps?
Non, plus, moins, mais parce que aussi quand tu commences, t'as vraiment une dose d'énergie. Quand on est jeune, on a une dose d'énergie qui est monstrueuse. Je me rappelle des méfaits du tabac de Tchekhov que j'avais joué à la fac. Donc c'est l'histoire d'un vieux type et tout ça. C'était 20 minutes de seul en scène. Et je me rappelle, j'avais l'impression d'être à un mètre du sol. Et je me rappelle quand je suis rentrée, quand je suis sortie, mais entre les 20 minutes, je me rappelle pas très bien.
Et quand vous sortez de la transe, alors Céline Salette, comment vous vous sentez?
Des fois on se fait mal, on se rend compte après et tout. Et quand on sort de la transe, on se sent bien. Ouais, c'est comme un bon...
On se fait une petite transe là ou pas?
Si vous voulez.
Ok, ça marche. Rien de bien méchant, rien de spectaculaire, de l'émotion pure. Peut-être l'une des plus belles chansons d'amour de tous les temps. The End of the World, par Skeeter Davis en 1963, parce qu'on est vendredi, parce qu'il n'est pas trop tard pour un petit peu d'amour, de douceur et de beauté. Vous êtes sur France Inter avec Céline Salette. Vous écoutez Boomerang, très amoureux ce matin. Why do the birds go on singing?
Does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry?
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Avec ses yeux de chat, avec sa façon de se tenir, c'est son attitude, son soupçon de gouaille, on est quelque part entre Charlotte Rampling et Kristen Stewart. Alors, on l'imagine gambader dans les dunes de sable au petit matin pour piquer une tête, préparer un risotto sur un réchaud portatif au beau milieu de la forêt, ou encore en tenue de Calamity Jane en train de fumer le calumet de la paix avec des marshmallows sur une plage tout en bleu, bleu de la couleur de ses yeux. Ce matin, la comédienne Céline Salette, invitée de Boomerang pour Mais vous êtes fou d'Audrey Diwan, qui mise sur l'émotion avec beaucoup de pudeur d'ailleurs ce film. Il se trouve que c'est un premier film, je le disais, et c'est pas la première fois que ça vous arrive. Comment on fait pour dire oui à quelqu'un dont on n'a jamais vraiment vu le travail auparavant?
Oui, on a vu le travail un peu. Audrey, j'ai de la chance parce que je la connais depuis 10 ans. On s'est rencontrés parce qu'elle m'a interviewée à l'époque où elle était journaliste, il y a 10 ans.
Elle est par ailleurs une formidable scénariste.
Ouais, oui, c'est vrai. Et on a commencé cette conversation qu'on n'a jamais arrêtée depuis. Et du coup, c'est assez magnifique comme ça d'assister à la naissance d'un metteur en scène, en fait. C'est tellement dur d'arriver à faire son film. C'est immense. Donc, comment on fait? Ben, je sais pas. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'être avec quelqu'un qui faisait son premier film. Jamais.
Avec
mais,
elle.
Non, mais avec elle, ni même en général. Si tu fais un premier film en disant, je suis vraiment en train de faire un premier film, est-ce que le type ou la nana va se planter vraiment? Genre, plateau au tournant, il dit qu'il va dire une connerie, paf! Je lui rappelle que c'est son premier film. Non. Donc, non. Non. En fait, on est tous en train de faire des expériences. Franchement, Audrey, je l'ai trouvée absolument remarquable. Jamais une seule seconde, je me suis dit, tiens... Et puis, quand bien même... D'abord, ça n'est pas arrivé. Et puis, quand bien même quelqu'un cherche sur un plateau, je veux dire, moi, j'ai vu des... C'est le signe des grands cinéastes. Hein, je veux dire, il n'y a que des problèmes qui se posent au présent. Tu peux avoir anticipé tout ce que tu veux, en fait. Mettre en scène, c'est être là maintenant. Et là maintenant, il ne se passe que des trucs pas prévus. Donc, en fait, il faut réinventer tout le temps. Et c'est comme ça qu'on voit ce que c'est qu'un cinéaste. C'est quelqu'un qui invente.
C'est ça aussi. C'est inventer, ouais, dans ce sens-là.
Absolument. C'est inventer tout le temps. Il n'y a rien qui se passe jamais comme prévu. Quand une scène doit être tournée, tu peux prévoir tout ce que tu veux. Il n'y aura jamais... Il faut sauter dans le vide, il faut aller chercher la grâce, et la grâce, bah, tu sais pas où elle arrive, en fait. Donc tu peux pas te dire, tiens, je vais passer à droite, à gauche, et là, ça va être beau. Non, c'est de la merde si tu fais ça.
Ça va être beau, c'est ce que vous cherchez, vous, le beau, la beauté?
Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le frisson intérieur, moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans une scène et d'avoir des frissons intérieurs, même des frissons, mais...
C'est une forme de beauté, ça.
Ouais, ça, c'est une... En fait, pour moi, dans le frisson, le frisson vient quand une vérité apparaît, ou une révélation apparaît, quelque chose apparaît. Ce que on peut appeler la grâce, ou ce qu'on peut appeler la beauté, oui.
T'es du genre à faire confiance facilement, vous, Céline Salette?
Assez, franchement. Franchement, je trouve que ouais, c'est la base. Après, on peut toujours revenir en arrière, mais d'abord, il faut faire confiance, ouais.
En tout cas, ce rôle, il s'inscrit dans un registre dans lequel on vous connaît assez bien. Et je me suis demandé, au fond, est-ce qu'à ce stade de votre carrière, vous n'aimeriez pas qu'on vous propose aussi des grosses comédies? Une bonne grosse soupe aux choux, tiens, par exemple, Céline.
Extraordinaire.
Ça serait pas mal.
Ouais, l'autre jour, j'ai raconté à ma fille le pitch de la soupe aux choux. C'est quand même invraisemblable.
Bah,
c'est l'histoire de deux types qui montent sur une colline, qui font un concours de paix et qui, du coup, appellent un extraterrestre qui a un casque sur la tête et qui fait pour communiquer. C'est quand même, il y a quand même un type un jour qui a vendu ça à des producteurs et le mec a dit, ouais, banco. On va faire ce film.
On le fait.
Ouais, très bonne idée.
Il y a Jacques Villeray aussi.
Ouais, c'est vrai.
Bah, c'est pas mal. Vos premiers fous rires de spectatrice, tiens, c'était devant quel film, vous vous souvenez?
Oh, je pense que c'était devant De Funès.
Bah, c'est vrai?
Ouais.
Quel génie est-ce qu'il a, lui?
Oh, il a le génie qui me fascine le plus, c'est-à-dire celui de sortir de lui. Dans ce texte qui est génial de Novarina, qui s'appelle Pour Louis de Funès, il décrit génialement ce truc qui est... T'as l'impression que Louis de Funès passe sur lui-même et s'écrase en permanence, ou s'auto... il s'écrase...
Vous avez une scène qui vous vient à l'esprit, là? Tout de suite?
Bah, toutes les scènes, mais c'est vrai que la folie des grandeurs... c'est un des films que j'ai le plus vu quand j'étais petite. À cause de la télé, hein. Parce qu'on n'avait pas beaucoup au cinéma et tout ça, mais la télé, ça passait tout le temps, c'est extraordinaire.
C'est comme ça que vous avez découvert le cinéma, en fin de compte ?
Oui, certainement.
Quelle place est-ce qu'il avait dans votre famille, chez vos parents ?
On adorait les histoires, il y avait un vidéoclub, on allait beaucoup, mais je ne vais pas dire qu'il y avait une place particulièrement... En fait, ce n'est pas vrai, parce que je me rends compte, comme on habitait à Arcachon, probablement c'était un des trucs culturels qu'on faisait le plus, parce qu'il n'y avait pas tellement de théâtre, ni de... Enfin, il n'y en avait pas d'ailleurs. Merci. Non, mais c'est vrai, je veux dire, des fois, on est allé à Bordeaux avec l'école et tout, mais à Arcachon, il n'y avait rien, quoi. Il y avait un jeu au bord de la mer l'été, là, un jeu télé dégueulasse. Je sais plus ce que c'était.
Ah oui, à côté de la plage.
Ouais, là. À côté de la plage, il y avait plein de gens qui venaient.
C'est toujours terrible, ça.
Ouais, voilà. L'été, il y avait du monde, l'hiver, il n'y avait personne. Il y avait un peu que le vidéoclub, quoi.
Mais à quel moment votre appétit de cinéphile s'est vraiment éveillé? Les premiers chocs?
Ben, je sais pas. Après, j'ai une pote qui s'appelait Nathalie et elle avait la télé dans sa chambre. Et du coup, on regardait plein de films d'horreur, par exemple. Depuis, je peux plus. Mais on a regardé comme ça l'Exorciste, des trucs vraiment dégueulasses, Les Dents de la Mer. Après, j'habitais, j'avais peur d'aller dans l'eau et tout.
Et ça, ça a été des chocs?
Bah, carrément. Moi, encore aujourd'hui, hein, j'ai peur des requins.
Mais vous l'avez dit, Céline Sallet, être comédienne, ça n'a pas toujours été un rêve, en fait. Vous avez longtemps été un petit peu perdue. Petite, vous vouliez faire quoi? Vous rêviez de quoi?
En fait, je sais pas si j'étais perdue. J'étais pas perdue, mais je m'en foutais. C'est-à-dire que j'étais pas comme aujourd'hui dans des préoccupations potentialistes, quoi. C'est-à-dire que j'étais bien, je vivais, quoi. Qu'est-ce que on disait ?
Qu'est-ce que vous vouliez faire ?
Ouais.
Quels étaient vos rêves ?
Franchement, je voulais rien faire, mais c'était pas mal. Hein. Et après, non, mais c'est vrai, je me disais pas, tiens, je vais faire un truc. J'adorais chanter dans ma chambre et tout, des trucs comme ça, mais. Non, j'étais bien vivante, ça allait.
Mais qu'est-ce qui vous a incité dans un premier temps à vous inscrire en fac d'art du spectacle? C'était quoi
alors,
le plan?
Alors ça, après la fac, oui, parce qu'en fait, je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que quand j'étais au lycée, donc quand je suis au collège, je fais ce truc-là du théâtre énorme. Après, je suis au lycée, j'en fais beaucoup, 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 énormément, qu'avec des gens qui adorent Mnouchkine et tout ça, c'est mon école.
Ouais, Mnouchkine.
Ouais, après, je fais une fac, parce qu'il y a Georges Bigot, qui est un ancien acteur d'Ariane, de Mnouchkine, du coup. Et donc, c'est comme ça que j'apprends, qu'avec des gens qui sont passionnés de ça. Mais j'ai pas de visée électoraliste, je sais pas comment dire. Non, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas de but dans le sens où je me dis pas, tiens, je vais gagner beaucoup d'argent en étant acteur, actrice, ou je vais faire du cinéma, par exemple. Non, ça ne me vient pas à l'idée. En revanche, toutes ces sensations intérieures que j'ai en jeu, je veux jamais les quitter et je sais que ce sera ça toute ma vie.
Qu'est-ce que ça vous a permis de trouver, en fait?
En fait, c'est comme une philosophie de l'existence. Il y a dans être son propre outil et être acteur, un truc qui peut durer toute la vie. Toute la vie, tu peux soulever des questions avec les histoires que tu traverses. Toute la vie, tu peux t'augmenter, te défricher toi-même comme une propre petite forêt. On y revient et c'est merveilleux.
Une voix aussi, non? Découvrir sa voix, on parlait
ouais,
du corps tout
ouais,
à l'heure.
Mais oui, c'est-à-dire que c'est infini. Le potentiel de ce travail est infini et hyper réjouissant. Donc je ne peux pas dire autre chose que j'ai une chance de dingue, vive la vie, faites tous de l'art dramatique.
Vous aimez bien votre
trouvez
voix,
tous, trouvez tous votre outil pour vous défricher vous-même, quel qu'il soit. Quoi.
Votre voix, vous l'aimez bien?
Je m'en fous un peu de ma voix. J'aime pas trop l'entendre comme tous les gens qui s'entendent. Après, c'est comme ma gueule, ça va, bon, voilà. Ça dépend des minutes, mais on s'en fout, on va pas y passer non plus des heures, c'est pas un sujet.
Bah on va l'entendre là, hein, votre voix.
Ah oui, voilà.
Ah ouais,
oui,
vous allez nous lire un texte que vous avez choisi.
Ce qui compte, c'est les idées.
C'est un texte de qui?
Alors, c'est un texte d'Alexandre Mars, qui a fait une fondation qui s'appelle EPIC. Lui, il a très bien réussi dans la vie. Donc un jour, je lisais ce magazine qui s'appelle Oui Demain, qui est un magazine génial, qui s'occupe de rassembler toutes les initiatives qui vont faire notre futur, mais plutôt dans une optique lumineuse, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être génial demain, quoi. On essaye de regarder ça du bon côté de la lorgnette. Je ne sais pas si je dis des mots cohérents, mais bref.
Si.
Donc Alexandre, je découvre son association, sa fondation qui s'appelle EPIC, dans ce magazine. Et le but de cette association, c'est d'auditer le but de cette fondation, c'est d'auditer des associations pour que le don devienne la norme. C'est-à-dire, lui, il dit, le don va devenir la norme demain. On peut taxer les gens si on veut, mais il n'y a qu'une chose qui tiendra à la fin. Bill Gates, par exemple, donne aujourd'hui 90% de sa fortune à sa fondation, sa propre fondation. Il n'y a qu'une chose qui tiendra la société ensemble, c'est le don qu'on fait spontanément, volontairement, dans le désir, encore une fois. Ce qui compte, c'est le désir. Et donc, lui, il audite des associations, il les fait passer par une lorgnette complètement technologique, dingue, il a monté des logiciels de fou et tout ça pour auditer les gens, et puis il les rencontre, pour que tout ce qui soit donné soit vérifié, comptabilisé, optimisé, génial. Voilà.
On vous écoute.
Merci. C'est un extrait donc de La Révolution en partage d'Alexandre Mars. Votre génération, vous, les millennials, est différente. Elle est différente de la nôtre, celle de vos aînés. Vous êtes la oui-génération, la génération du nous. Nous étions les générations du jeu. Vous voulez partager. Vous êtes dans le sens, l'attention, la sollicitude, le relationnel, la générosité, le souci de l'autre. Vous voulez faire le bien. Ma génération est encore trop égoïste. Les héros de nos films étaient les tueurs et les gros bras. Les avides étaient ses rois. Nos valeurs se calculaient en dollars, en euros. Puis vous êtes arrivés, des sortes d'extraterrestres. La génération la plus socialement engagée depuis mai 68. Je vous repère quand je donne mes conférences. Vous êtes ces mains qui se lèvent, ces téléphones qui bombardent de photos l'écran derrière moi, sur lequel s'affiche une phrase devenue votre slogan. Purpose is the new currency. Le sens est la nouvelle devise. Le sens est un travail invisible. Il n'est entretenu ni par l'intelligence, nous aussi nous étions intelligents, ni par les sentiments. Il est au-delà de la réflexion. Il est ce que vous êtes. L'attention pour les proches, pour ceux que vous ne connaissez pas. L'attention pour la planète, que nous vous laissons en bien mauvais état. L'attention comme art de vivre, comme seconde nature, votre vraie nature. Vous n'êtes pas dans la perspective d'aider. Ces mots paternalistes, colonialistes, n'appartiennent pas à votre vocabulaire. Vous, vous préférez partager. Et vous avez bien raison. Vous ne donnez pas, vous nouez des partenariats. Vous ne faites pas la charité, vous vous mettez à côté de l'autre pour avancer avec lui. Vous avez déconstruit notre organisation sociale. Nous avons d'abord cru à une plaisanterie, puis le monde que vous imaginez nous a séduit. Quand aujourd'hui des organisations patronales et des banques d'affaires me demandent de leur parler de partage de biens sociaux, je sais que vous avez gagné. Quand les vieux que nous sommes, nous, la génération X et les baby boomers, sortons de notre petite zone de confort et cherchons avec vous des solutions, je suis rassurée, il n'y aura pas de retour en arrière. La fille d'un couple d'amis a fêté récemment ses 18 ans. Nous, à 18 ans, nous rêvions d'une voiture. Elle a demandé à ses parents de vendre l'une de leurs deux voitures, histoire de protéger la planète. Grâce à vous, le dollar et l'aura sont détrônés. Le sens est la nouvelle devise.
C'est un très beau texte, Céline Salette, merci infiniment d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Mais vous êtes fous d'Audrey Diwan avec Pio Marmaille, Carole Franck, Valérie Donzelli, Jean-Marie Winling sort mercredi. Allez-y, merci à vous, merci à tous les foufous et fofolles de Boomerang qui permettent à cette émission d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Billot, Pierre Martinery, Paul Guillotte et Jean-Baptiste Dibert. Merci à vous toutes et tous aussi qui nous écoutez, qui nous donnez cette confiance et cette amitié à lundi pour démarrer en beauté notre semaine spéciale consacré à l'Europe. On est parti dans l'Europe tout entière. Et lundi, ce sera avec l'écrivain italien Eri De Luca, chez lui, à Rome. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers.